France Culture se fait l'écho du forum Le Monde Le Mans qui s'est tenu au Mans le 13 novembre dernier sur le thème « Où est le pouvoir ?». Aujourd'hui, première émission, leçon inaugurale de Bruno Latour, sociologue et philosophe. Une émission présentée par Jean Birnbaum, suivie d'un débat au cours duquel les spectateurs posent des questions à Bruno Latour.
Je remercie mille fois Bruno Latour d'avoir accepté notre invitation. Il se balade beaucoup, il est très demandé aux quatre coins du monde. Bruno Latour est sociologue, anthropologue, philosophe des sciences également. Et il a une célébrité mondiale. Alors ça peut un peu étonner, c'est aujourd'hui l'intellectuel le plus lu, le plus cité à l'étranger, intellectuel français. Quand je dis ça peut étonner, c'est-à-dire que souvent il y a ces décalages comme ça entre ce que les intellectuels qu'on croit connaître ou qu'on pense connaître en France et ceux qui sont réellement connus à l'étranger. Vous savez que moi, quand j'étais petit, mais la plupart d'entre vous, en tout cas au fond de la salle, ne s'en souviendront pas, il y avait une série qui s'appelait Bioman, qui était une série japonaise qui avait eu beaucoup de succès. Et il y avait Force Rouge, Force Verte, Force Bleue, etc., qui étaient les gentils. Et à chaque fois que le monstre face auquel il faisait face commençait à être en difficulté plutôt, eh bien les méchants, le QG des méchants qui étaient dans une autre galaxie, appuyaient sur un bouton et tout le monde était transporté dans une dimension obscure où le méchant reprenait le dessus. Alors il y a quelque chose comme ça un peu dans le monde intellectuel international. Il faut voir que il y a ces effets d'optique, ces biais qui font que parfois on comprend pas vraiment que les intellectuels qui souvent font la une des journaux en permanence occupent la majeure partie de l'espace public et du débat public en France. Pour certains d'entre eux, sont connus à l'étranger et ont une œuvre qui rayonne, mais pour d'autres, sont absolument inconnus et n'ont aucune notoriété à l'étranger. Alors évidemment, quand on est connu mondialement, comme c'est le cas de Bruno Latour, on n'a pas que des amis, et d'ailleurs d'abord en France. Il en sait quelque chose, je crois, parce que cette célébrité contraste un peu avec sa place dans le monde sur la scène intellectuelle et académique française. Et on comprend aussi que Bruno Latour se méfie des frontières établies, non seulement nationales, mais aussi disciplinaires, puisqu'il a commencé, il a commencé d'ailleurs à subvertir ces frontières, à les dépasser, à les bousculer très tôt. Jeune philosophe, à la fin des années 70, il s'est tourné vers l'anthropologie. Et depuis, il n'a pas cessé de remettre en question les frontières nationales, disciplinaires, entre les questions, les thèmes, les frontières entre la nature et la culture, entre la science et la société, à l'intérieur dans le monde scientifique, entre les rationalistes et les relativistes, et les frontières de la modernité aussi, en posant tout un tas de questions, la définition, les limites de la modernité, quelles sont les valeurs auxquelles on tient vraiment, collectivement, qu'est-ce que c'est qu'un monde commun, un monde de partagé, la question de la confiance aussi, qui joue un rôle très important dans l'œuvre de Bruno Latour. Ça fait beaucoup de thèmes pour le Forum Philo du Mans d'ailleurs, pour l'avenir. La question de la confiance dans les institutions scientifiques, par exemple, mais aussi dans les institutions, et on y vient donc, politiques, parce que Bruno Latour a travaillé sur, par exemple, sur la place du Sénat, le rôle du Sénat, il s'est exprimé sur le traité constitutionnel européen. Et à chaque fois, pour creuser ces questions théoriques, souvent, eh bien, il a mené les choses de façon extrêmement concrète, avec des enquêtes très concrètes, matérielles. C'est quelqu'un qui a une sorte de pragmatisme, qui aime être centré sur l'expérience, sur les pratiques, avec un mélange assez impressionnant, je dirais, de hardiesse et de prudence. Je ne sais pas si vous serez d'accord, mais c'est-à-dire qu'il y a cette idée que le but de la philosophie ou de la pensée ou de la sociologie n'est pas de renverser la table ou de faire table rase, c'est plutôt de trouver au moins un bon début pour penser quelque chose de nouveau. Et donc, par exemple, commencer par enquêter. Il y a une sorte de radicalité pragmatique ou de radicalité de la nuance chez Bruno Latour qui est très belle. Cette radicalité, elle passe, et j'en terminerai par là, par beaucoup de passions très diverses, non seulement sur les thèmes abordés, mais aussi sur les objets entrevus et enquêtés. Enquête, d'ailleurs, vous avez commencé par une enquête il y a longtemps dans un laboratoire de neuro-endocrinologie en Californie. Et depuis, vous n'avez pas cessé de manifester une passion comme ça pour les choses en général. D'ailleurs, vous aviez imaginé un parlement des choses, une passion des puzzles hein, auxquels vous assimilez vos objets d'études, les microbes chez Pasteur, le métro automatique, le droit administratif. Donc, une sorte d'art aussi du montage, vous voyez, de l'assemblage, de la mise en scène. Et voilà, vous avez monté des expositions, par exemple, des pièces de théâtre, mise en scène de pièces de théâtre, notamment avec quelqu'un qui était à cette tribune il y a 2 ans, Frédéric Haït-Touati, vous vous en souvenez sans doute, qui avait une jeune femme qui avait fait un merveilleux exposé ici même. Elle fait partie des gens avec lesquels vous avez monté cette pièce, une grande pièce, où vous avez fait jouer à des, je crois, 200 étudiants du monde entier au Théâtre des Amandiers. Une sorte de les négociations sur le climat. On y est presque, on y arrive, on est en pleine actualité. Cette grande pièce de théâtre, comme ça, où vous avez voulu reconstituer ces négociations sur le climat, qui sont aussi au cœur de votre tout dernier livre, Bruno Latour, qui s'intitule « Face à Gaïa, 8 conférences sur le nouveau régime climatique ». C'est paru à La Découverte, et vous trouverez le livre, évidemment, chez notre ami de l'herbe entre les dalles, hein, la librairie qui est dans le hall, ici même. Voilà. Vous êtes présent dans les livres et dans la vie, Bruno Latour, avec beaucoup d'enthousiasme, mais aussi de conviction, presque une ferveur. Vous allez le voir, je crois, tout de suite. Bruno Latour est très présent derrière ses mots, hein, derrière ses images aussi, puisque je crois que cette leçon inaugurale sera à la fois en texte et en images. Bruno Latour, merci beaucoup d'être là parmi nous. Vous avez la parole pour 40 à 45 minutes. Merci mille fois.
Merci Jean, je ne suis pas sûr d'avoir compris la métaphore japonaise si j'étais dans les forces du mal ou celles du bien. Petite incertitude sur la chose, je vais discuter du pouvoir avec vous et effectivement faire une enquête et le faire avec des illustrations précises. Je suis un philosophe empirique, comme l'a rappelé Jean, j'aime bien regarder les choses de façon assez précise. Vous avez ici une illustration de cette extraordinaire BD qui reste le meilleur livre sur la question climatique dont je parlerai à la fin de cet exposé, de Philippe Squarcioni, qui s'appelle « Saison brive ». J'ai essayé de répondre à la question, mais comme toujours avec les philosophes, on modifie un peu le sujet. Une bonne dissertation est une dissertation qui modifie la question qu'on pose. Donc, où est le pouvoir? Oui, mais quand on l'a trouvé, qu'est-ce qu'on en fait? Il suffit pas de le trouver, il faut en faire quelque chose. Et donc, je vais essayer de répondre à ces trois questions. Comment enquêter sur de façon à le trouver? Comment s'en méfier? Je pense qu'il faut se méfier du pouvoir dans tous les sens du terme. Et aussi comment l'exercer une fois qu'on l'a trouvé. Alors évidemment, recherche du pouvoir, ça c'est un peu inquiétant. Ça m'a un peu inquiété au début quand Jean m'a donné le thème, parce qu'il y a 2 sens assez différents. Le premier, c'est de dire la conquête du pouvoir, ce qui serait le cas si nous étions ici une assemblée des militants politiques d'un parti qu'il faudrait inventer, le parti du Mans, le Monde, je ne sais pas si c'est un parti. Et là, je vous ferai un discours politique, au sens de la tonalité d'un discours politique, du mode très particulier du discours politique, et nous essaierions de nous répartir les façons d'aborder la question pour conquérir le pouvoir. Mais ça n'est pas l'objet. L'objet est un objet de philosophie, de réflexion, de début, comme l'a rappelé Jean tout à l'heure dans son introduction, et donc plutôt recherche des lieux et des moyens où le pouvoir s'exerce. Tout philosophe, et tout philosophe empirique en particulier, doit définir les termes d'une enquête, c'est-à-dire quelle est la déontologie de la recherche du pouvoir. C'est des thèmes qui vont être mobilisés beaucoup par mes collègues qui vont parler ici, comme Nathalie Hennick et Luc Boltanski plus tard, et Bensa. C'est comment on fait pour ne pas se perdre dans cette question que nous a posée Jean Berenbaum. Alors ma solution à moi, c'est d'abord enquêter, effectivement, se donner les moyens de prouver la présence légitime ou illégitime du pouvoir. Pourquoi? C'est pour éviter le simple soupçon. Comme l'a rappelé le maire, pour des raisons différentes, je suis d'accord avec lui, la critique est devenue assez automatique. Dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'une autorité énonce quelque chose, immédiatement, on sait que c'est faux. Donc le problème, c'est que le soupçon est beaucoup trop rapide et il y a une exigence d'enquête qui doit contrecarrer ce soupçon automatique. Disons, on dégaine aussitôt le soupçon avant de pouvoir même enquêter. Et la deuxième chose, c'est si on parle de pouvoir, si on le trace, si on le désigne, si on le montre, il faut qu'on donne aussi les moyens d'exercer, s'il est légitime, à ceux à qui on s'adresse, ou de le contre-attaquer, de s'établir comme contre-pouvoir, si, au contraire, on l'a montré qu'il était légitime. Ça, c'est pour éviter un thème que Luc Boltanski va travailler, qui est la simple dénonciation, qui est toujours aussi une facilité qu'on se donne. On dénonce, mais oui, mais est-ce que ça donne à celui à qui on s'adresse une capacité de réaction? Ça, c'est beaucoup moins sûr. Je vais faire 5 points, j'espère avoir le temps. Le premier, c'est que c'est assez difficile, mais je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, de repérer cet exercice illégitime du pouvoir. Alors, je commence par un exemple qui est, je crois, assez simple. C'est là où on voit l'influence indue. Vous avez tous, je pense, entendu parler de l'histoire du Mediator. C'est un médicament par un laboratoire Servier, qui est maintenant condamné. Et là, c'est un article du Monde. Je vais utiliser, évidemment, beaucoup d'articles du Monde. C'est une source indispensable pour enquêter sur le pouvoir, parce que la presse est un contre-pouvoir. Et là, vous avez un titre qui est tout à fait classique. Un Servier, le laboratoire, donc, soupçonné d'avoir influencé un rapport du Sénat. Et c'est une sénatrice qui s'est aperçue que les notes du rapport avaient été modifiées à la demande d'un professeur de médecine. Donc là, clairement, une enquête, disons, classique, se trouve interrompue ou modifiée par une intervention indue, illégitime, et à raison, je crois. Là, on dit, c'est un exercice illégitime du pouvoir. La discussion n'est pas, ne demande pas beaucoup de temps. Le cas suivant est un peu plus compliqué. La contestation contre les antennes relais s'étend à la ville comme à la campagne. Et là, c'est plus difficile de savoir où est le pouvoir. C'est-à-dire, est-ce que c'est des compagnies de téléphone qui imposent sans discussion ou sans assez de discussion la prolifération de ces antennes? Est-ce que c'est l'État qui est assez peu regardant sur la question de l'implantation? Est-ce que ceux qui souffrent, au contraire, de cette maladie qui n'est pas déclarée comme telle et qui souffrent dans leur corps de la présence de ces antennes relais sont excessifs dans leur demande, ou au contraire, est-ce que c'est injuste? Et à ce moment-là, on serait plutôt dans le cadre du médiateur, c'est-à-dire c'est un scandale qu'il faut dénoncer. Il y a une incertitude sur la répartition, disons, des forces en présence, et il va falloir enquêter assez soigneusement sur cet exemple avant de pouvoir désigner s'il y a un pouvoir légitime ou illégitime. Troisième exemple, plus difficile encore, parce que là, il s'agit d'économie, il s'agit d'experts qui, apparemment, ont écrit toujours un article du Monde, « La politique de resserrement budgétaire repose sur un diagnostic erroné ». Vous savez que tous les États d'Europe souffrent en ce moment de cette idée assez étrange, d'après beaucoup d'économistes, qu'il faut faire des réductions de budget alors qu'on est en dépression économique et qu'il faudrait au contraire investir massivement à un moment où l'argent coûte fort peu cher. C'est l'argument que Krugman, dans le New York Times, répète presque chaque jour au monde entier sans être entendu, bien qu'il ait un prix Nobel d'économie. Donc voilà un cas où le pouvoir là est exercé par des experts ou quasi-experts qui, par une diffusion assez compliquée à comprendre, ont influencé les sphères du pouvoir au sens classique du terme, c'est-à-dire le pouvoir politique, et qui, au fond, nous oblige, nous tous, à nous serrer la ceinture, à serrer la ceinture de l'État, à serrer la ceinture des villes et des régions, etc., pour une doctrine économique dont l'origine est assez peu assurée. Qui a le pouvoir, là? Est-ce que c'est la doctrine économique? Est-ce que c'est les économistes? Est-ce que c'est ceux qui écoutent les économistes? On voit que la diffusion du pouvoir commence à devenir plus difficile à repérer. Ce qui est clair, et à chaque fois que j'aurais fait un point, j'essaie de mettre des repères pour une enquête sur le pouvoir, c'est que là, clairement, on repère à 2 points, il y a une voie droite, quelque chose aurait dû aller droit, on aurait dû faire un rapport sénatorial sur le scandale Servier, et il a été détourné par l'influence indue d'une autorité, d'une forme plus ou moins obscure, dont généralement le nom est connu et qui ressemble un peu à des êtres humains. Dans le cas de la doctrine, une doctrine économique, c'est plus difficile. Dans le cas de Servier, c'est un médecin, donc là, on peut le repérer. Donc, ces 2 tests nous permettent d'avancer un peu dans l'enquête. Est-ce qu'on sait qui, la forme de ceux qui exercent ce pouvoir, et est-ce qu'on a détourné une autorité qui aurait dû aller droit? Mais, évidemment, ça serait simple si ça s'arrêtait là. Le deuxième point, c'est que pour aller droit, il y a aussi du pouvoir. C'est le point très important d'un terme que vous connaissez probablement, qui est la naturalisation des pratiques, la naturalisation des conduites, où là, le pouvoir est bien exercé. Quelqu'un tout à l'heure à la tribune a dit « latent », ce qui est une assez bonne formule, mais il a été exercé autrefois, simplement on en a perdu la trace. Et c'est évidemment à Michel Foucault, dont on vient de rééditer les œuvres dans la Pléiade, qu'il faut penser. Vous connaissez probablement tous cette image et ceux des élèves qui étudient Foucault doivent la connaître aussi, d'en surveiller et punir, c'est une architecture de prison, une architecture tout à fait particulière, qu'on n'aurait pas très aussitôt l'idée de considérer comme la preuve d'un exercice illégitime du pouvoir. C'est un exercice entièrement légitime. Les architectes ont été payés normalement, l'État est entièrement derrière, et pourtant, comme le montre très bien Michel Foucault dans un livre célèbre, c'est toute une façon pour l'État et pour le pouvoir, pour le gouvernement, ce qu'il appelle la gouvernementalité, d'exercer sur les prisonniers une vision assez complète, puisque depuis la cabine du milieu, le surveillant peut regarder directement à l'intérieur de toutes les cellules qui sont autour. Les cellules sont transparentes et on voit le prisonnier, disons, jour et nuit, il est sous une surveillance qui est évidemment insupportable pour le prisonnier et qui n'est pas naturalisée pour lui, mais qui est naturalisée pour ceux qui exercent cette forme de pouvoir qui est, depuis le XIXe siècle, je ne reprends pas tout l'argument de Foucault, devenue la façon normale, naturalisée, dont un pouvoir extrêmement violent s'exerce calmement, lentement, d'une façon complètement quotidienne. Le deuxième exemple va vous surprendre peut-être davantage, c'est le maître. J'étais hier devant le Sénat et j'avais oublié que devant le Sénat à Paris, il y a le maître étalon, c'est le seul qui reste d'ailleurs. Le maître est une naturalisation d'une bataille politico-mondiale extraordinairement importante qui a été le système métrique. Le système métrique a une longue histoire, il a fallu 100 ans, 80 ans pour l'imposer à une partie du monde, mais si vous traversez la Manche, vous savez que le système métrique, si vous l'imposiez, serait la preuve d'un pouvoir arbitraire. Et là, on a un cas très intéressant, puisqu'on ne voit plus l'origine du pouvoir, rien de plus objectif que le maître. Là, c'est l'endroit au Sénat où les gens, autrefois, avant que les maîtres soient diffusés, pouvaient aller vérifier que leur maître était bien un bon maître, c'est un maître étalon à cause de ça. Et vous avez, avec ce maître, un exemple très intéressant de les standards, de l'ensemble de la standardisation, qui est un exercice complètement naturalisé du pouvoir, mais il faut se donner un peu de mal pour s'en souvenir, pour se souvenir de l'origine polémique et de l'origine violente que ce pouvoir a exercé. La bataille anglaise et française sur le maître est célèbre, elle a été étudiée par des historiens des techniques. Troisième et dernier exemple, là il s'agit d'un cas où le pouvoir est exercé par quelque chose que je suppose que beaucoup d'entre vous utilisent, qui est le Roundup. Et le Roundup, c'est un produit chimique que les jardiniers, malheureusement, mettent en une abondance extraordinaire dans leur jardin et dont beaucoup d'agriculteurs, d'ailleurs, périssent de cancer. Mais là, il s'agit d'une variation assez intéressante de l'utilisation du Roundup où le Roundup, parce qu'il s'est diffusé partout, a favorisé, en quelque sorte, selon des principes darwiniens que tout le monde connaît, l'émergence d'un autre de plantes qui sont des plantes qui sont folles et qui sont devenues extraordinairement puissantes, et pouvoir c'est aussi des puissances, grâce à la diffusion du Roundup qui devient un standard. Donc le Roundup est naturalisé en quelque sorte, plus personne n'imagine d'avoir un jardin ou d'avoir d'un élevage de maïs, une agriculture de maïs sans le Roundup, mais ce Roundup commence à avoir des contre-effets, et ces contre-effets, eh bien, comment les considérer comme une forme de pouvoir? Or, il y a bien un pouvoir, ici, il est argumenté par l'article du Monde, c'est Monsanto, qui est une compagnie qui a produit ses OGM à l'intérieur même d'un laboratoire, je reviendrai sur ce point dans une minute, et qui exerce donc un pouvoir, et là, il y a un contre-pouvoir, et ça, c'est intéressant, parce que c'est un contre-pouvoir qui vient, en quelque sorte, de la réaction même du monde agricole et des plantes à l'exercice de Monsanto, qui fait que plus vous utilisez de Roundup, eh bien dans quelques années, il sera complètement inutile. Parce que, précisément, il aura sélectionné, standardisé, une certaine façon d'exercer le pouvoir de Monsanto sur les agriculteurs. Donc il y a le pouvoir de Monsanto sur les agriculteurs qui sont en train de, beaucoup sont en train de souffrir de maladies, et le pouvoir et le contre-pouvoir dans les champs. C'est pas évidemment des choses immédiatement on identifierait avec le pouvoir au sens classique. Et là, le repère, c'est qu'il n'y a que l'histoire, que la documentation, ou ce que Michel Foucault appelait l'archéologie, pour aller repérer à l'origine de ces éléments d'où vient le pouvoir et à l'intérieur duquel, à l'intérieur de quoi ce pouvoir s'exerce. Troisième point, et là je vais insister encore plus que les orateurs précédents sur la diffusion de cette notion de pouvoir. Pouvoir, c'est aussi permettre, c'est aussi interdire, c'est aussi relier, et c'est aussi enchaîner. Et donc, c'est, dès qu'on commence à faire une enquête sur la question du pouvoir, on commence à visiter le collectif, ou c'est ce que certains appellent la société, de façon un peu différente. Je prends un exemple qui fera particulièrement plaisir aux lycéens qui sont et aux étudiants qui sont ici, mais après tout aussi aux vieux qui sont ici aussi, qui utilisent le même instrument, c'est-à-dire ce petit instrument. Les vieux, les très vieux ici, comme moi, se rappellent qu'on n'en avait pas besoin autrefois parce qu'il n'y avait qu'une chaîne de télé. Mais si vous êtes maintenant avec plein de chaînes de télé et que vous n'avez pas ce petit appareil-là, qui vous permet, vous autorise et vous donne le pouvoir de rester assis en appuyant sur votre... Comment ça s'appelle ce truc, en fait? Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est le truc qui vous permet, qui vous autorise, qui vous assure. Comment ça s'appelle ? Télécommande, excusez-moi, j'ai oublié le nom.
Ah ben écoutez, moi je n'en ai plus usage depuis très très longtemps, j'ai même oublié ce mot, vous voyez.
Vous avez toujours connu
j'ai
ça.
J'ai pas la télé. Non, pas je croyais que vous vouliez parler de votre... Je
sais pas. Non, c'est la télécommande. Et la télécommande, c'est très intéressant parce que si vous essayez de regarder la télé pendant plus de 10 minutes sans une télécommande, vous commencez à bouger, à monter, à vous asseoir, etc. Et donc vous obtenez la situation qui est bien connue, que les Anglais et les Américains appellent « potato couch », c'est-à-dire une patate de divan, je ne sais pas comment ça se traduit en français. Et là, vous avez un cas tout à fait intéressant pour poser la question « Où est le pouvoir ?» Parce qu'après tout, vous avez là l'être le plus autonome, le plus libéré, le plus content du monde, c'est-à-dire qu'il a la télécommande, il a la télé devant lui, il a les patates chips qu'il peut manger jusqu'à devenir énorme, et il a surtout le Coke avec un supplément de sucre qui lui permet de grossir encore plus vite et encore plus largement. Et c'est intéressant parce que c'est là où la question de « Où est le pouvoir ?» doit se poser concrètement. Il est à la fois... cognitivement, l'homme, l'être le plus libéré de l'histoire, celui qui a le moins de contraintes, disons, et celui qui est le plus attaché, tenu, enchaîné, finalement, à ces instruments dont chacun est évidemment une permission, une autorisation, une occasion de pouvoir faire des choses. Le fait de pouvoir agiter sur sa petite télécommande est évidemment un des éléments importants. Et vous avez toute une espèce d'exploration à faire qui m'intéresse beaucoup et que j'ai pas mal fait avec mes collègues de ce domaine qu'on appelle les science studies. Vous avez ici un cas intéressant d'exercice du pouvoir, un cas très célèbre qui est celui des ponts de New York, dont la taille a été décidée pour des tas de raisons dont on ne sait toujours pas si ce sont des raisons racistes ou des raisons pas racistes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce camionneur a suivi son GPS. Le GPS, pendant très longtemps, ne marquait pas la taille des ponts, et donc il s'est trouvé, avec une certaine brutalité, disons, en face d'une décision prise des années auparavant sur la taille des ponts, et en contradiction, sans discussion possible, avec le pont qu'il a donc renversé. Est-ce que ce sont des relations de pouvoir ? Ben oui, parce que le pont lui-même, il a fallu le décider. Et cette décision très importante qui a été de faire une distinction entre les endroits où les voitures seules peuvent passer et les endroits où les camions peuvent passer, c'est évidemment aussi une grande distinction entre des activités, disons, ludiques et des activités industrielles ou commerciales qui ont irrigué la totalité de la ville de New York. Et si maintenant vous vouliez changer cette décision-là, décision évidemment dont vous voyez plus l'origine, il faudrait des milliards pour refaire tous les ponts de New York. C'est un exemple célèbre. Et j'ai passé moi-même beaucoup de temps à étudier ce cas tout à fait passionnant des ralentisseurs, mais je crois que je vais accélérer, puisque c'est un ralentisseur, je crois que ça va assez bien. Ces ralentisseurs qui sont des cas idéaux pour essayer de comprendre ce qui nous permet, ce qui nous autorise, puisque à chaque fois, évidemment, on nous oriente. Des gens, des fonctionnaires, des industriels, etc., orientent constamment nos actions et font que, sans nous-mêmes nous en apercevoir, nous ralentissons, même si notre... moralité est assez faible, notre voiture est rapide, on fonce, oui, mais sur les ralentisseurs, vous êtes obligé de ralentir. Et obligé de ralentir, c'est bien un exercice du pouvoir, mais c'est aussi, évidemment, permettre aux enfants des écoles qui sont à côté de ne pas se faire écraser. Juste un petit exemple de ce genre d'enquête qu'on peut faire et qui est tout à fait passionnante à faire avec des étudiants, je fais depuis longtemps, c'est la redistribution que ça entraîne. Donc vous avez bien la question sur cette diapositive, qui est la question de Jean, où est le pouvoir, mais il y a aussi où est celui qui a le pouvoir de résoudre mon problème. Et donc, en fait, on est toujours dans cette situation, dès qu'on pose la question du pouvoir de résoudre le problème, de visiter d'une façon différentielle les situations assez parfois cocasses, parfois dramatiques. Je finirai sur des cas dramatiques, je commence par une cocasse. Ça vous arrive tout le temps, Que vous soyez jeune ou que vous soyez vieux, il n'y a pas de différence. L'ordinateur ne fonctionne pas. Ici, c'est un problème de Wi-Fi. Et donc, évidemment, mon chemin à moi, qui allait droit, se trouve interrompu. Non pas cette fois-ci interrompu par un usage illégitime du pouvoir, mais tout simplement parce que je ne sais pas comment ça marche. Et je suppose que vous êtes devant vos ordinateurs comme une poule qui a trouvé un couteau, c'est-à-dire pour la plupart d'entre vous, sauf si vous êtes vraiment informaticien, ou si vous-même, mais ça suffit même pas, si vous fabriquez des ordinateurs, qui fabrique des ordinateurs? Des milliers de personnes, et donc même ça, ça ne suffirait pas à vous savoir quoi faire. Donc vous dépendez. Un grand principe de la sociologie, un grand principe de la division du travail. Et comment on fait? Ben, on va voir, et en l'occurrence, je vais voir Franck, et qui est le techie de Sciences Po, et je lui demande comment ça fonctionne. Seulement, le problème, c'est qu'il ne sait pas non plus. Et donc, deuxième décalage, Franck ne peut pas résoudre le problème et mobilise, cette fois-ci, Manu. C'est une histoire vraie. Ces histoires doivent toujours être vraies. Elles sont très communes, il en existe des milliers, ça n'a pas de problème. Et là, vous vous trouvez dans la deuxième situation, c'est que maintenant, vous avez tout un enchaînement de gens qui participent à la définition du problème dans lequel vous êtes maintenant simultanément enchaîné et libéré, d'autant plus amusant que Manu non plus ne sait pas comment ça fonctionne, et qu'on va donc un troisième spécialiste qui s'appelle Greg, et que donc en quelques minutes se constitue autour de cet objet qui était un objet qui avait l'air de fonctionner et que j'avais complètement naturalisé dans mon environnement. Il n'y a rien de plus facile à naturaliser dans un environnement qu'un ordinateur. Brusquement, toute une société se met à sortir en quelque sorte en poupée russe pour arriver à obtenir une solution au problème. Et c'est le cas ici. On n'a pas eu à aller plus loin que Greg et Manu. Et on revient évidemment à la situation initiale. Mais quand on revient à la situation initiale, on a bien exploré un tout petit peu de ces enchaînements diffus dont on parlait tout à l'heure et qui composent par leur multiplicité et leur enchaînement en poupée russe le pouvoir. Le pouvoir ici de résoudre un problème, de me permettre à moi de me mettre à écrire quelque chose, et cette possibilité m'est donnée parce que cet enchaînement-là s'est trouvé maintenant réaligné et que maintenant je vais, sans même y penser, après avoir évidemment remercié Franck, Greg et Manu, de leur efficacité, je retrouve le chemin droit, ce chemin droit où le pouvoir est bien là. Dès que ça marche et dès que ça fonctionne, il y a bien du pouvoir. Ici, ça fonctionne et je remercie les spécialistes qui ont fait marcher mon ordinateur et la Sono, à moins que ça s'arrête brusquement. Non. Parce que souvent, quand on fait cet exercice, on a des surprises. C'est pas qu'il n'y a pas de pouvoir, c'est que ce pouvoir se trouve aligné. Et donc, l'alignement du pouvoir est évidemment une des grandes questions qu'il faut arriver à suivre. Et repérer, c'est le repère important pour toute cette exploration, comment se passent les réseaux de compétences, comment est-ce qu'on établit tous ces réseaux frontières entre différentes fonctions qui se connaissent un peu. Un objet frontière, c'est je ne sais pas comment marche l'ordinateur, mais la personne qui est là le sait, et donc il y a une espèce de confiance qui se fait entre deux compétences, et évidemment cette confiance peut être brisée à tout moment par l'inefficacité, soit de moi, soit des autres.
Vous écoutez France Culture, le forum Le Monde, Le Mans. Le temps est venu pour le public de poser des questions à Bruno Latour.
Jean ?
Oui ?
Je suis tout en haut.
Oui.
Sur ta droite.
Oui, on vous voit.
Et la première question sera posée par un lycéen du lycée Douchard du Mans, qui aurait souhaité ne pas poser la première question, mais qui finalement a accepté de le faire.
Moi, je me demandais si... si le pouvoir corrompt-il ceux qui le détiennent ?
Oui, vous connaissez la phrase, je pense que vous y faites allusion, c'est ça ? Le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. C'est une phrase célèbre. Mais c'est vrai aussi, je crois, de l'analyse du pouvoir. C'est pour ça que j'ai insisté deux fois sur la rapidité avec laquelle on risque de repérer du pouvoir alors qu'il n'est pas forcément là. Parfois, il est là de façon latente. Et parfois, il est là parce qu'il y a une espèce de projection d'un doute paranoïaque, disons, sur ces questions. Et donc, on peut aussi reformuler votre question en disant la détection du pouvoir corrompt. Et la détection absolue du pouvoir corrompt absolument. On pourrait réutiliser cette... Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est à une période où c'est un sujet qui a fait l'objet de beaucoup de travaux de mes collègues, en particulier de Luc Boldanski et Laurent Thévenot, c'est que la dénonciation obéit à des règles assez précise et c'est multiplié, disons. En particulier pour des raisons qui est l'existence des médias informels. Beaucoup de choses que on disait dans les bars et à soi-même devient maintenant visible dans des espaces semi-publics. Et donc il y a une corruption très grande aussi de cette critique-là. Donc le pouvoir corrompt, mais la critique du pouvoir corrompt aussi. Et donc il faut aussi trouver des règles de vie pour et des règles d'enquête pour essayer de capter cette différence, cette difficulté qui est le sujet de la conférence de Nathalie Hennick aussi, c'est-à-dire arriver à trouver comment on peut échapper à la corruption de l'analyse en termes de pouvoir. Je vous remercie de votre question.
À gauche, une question d'une lycéenne du lycée Louis de Broglie de Marly-le-Roi.
Bonjour, j'aurais aimé savoir si vous considérez que le pouvoir est forcément néfaste.
Ah non, le pouvoir, attendez, c'est formidable.
Le il pouvoir, c'est ce que c'est, il n'en parle jamais, il trouve ça formidable, ça se complique.
Hein, le pouvoir, c'est permettre, c'est autoriser, c'est pouvoir. Ben, regardez le monsieur sur son. C'est formidable, il appuie sur sa télécommande. Il peut. Mais le problème, c'est qu'il peut et il est tenu. Et donc, le problème du pouvoir, c'est ça, ou la limite de la notion de pouvoir, c'est pour ça qu'on hésite toujours à l'utiliser. Oui, on peut, mais cette capacité d'agir qui est locale, qui marche tant qu'il y a une batterie dans la télécommande, elle vous tient aussi. Et vous devenez très gros, par exemple. C'est une diminution de votre puissance d'agir. Donc, c'est pour ça que la notion de pouvoir est toujours, au fond, très difficile à stabiliser. Parce que il faut donc, c'est le point 3 que j'ai fait, c'est-à-dire étudier la répartition, les enchaînements, permettre, interdire, autoriser, enchaîner, libérer. Et c'est ce que doit faire une philosophie, une science sociale un peu cohérente sur ces questions de pouvoir. Bon, il ne faut surtout pas répondre à votre question par oui ou par non. Je pense que ça serait... Il faut ralentir. Ça, c'est vraiment des sujets, il faut ralentir. La philosophie, généralement, ça sert à ralentir. C'est du slow, c'est l'équivalent du slow food. Disons, c'est comme...
Merci beaucoup.
Question suivante.
Monsieur.
Vous avez montré, je crois, une représentation du panoptique de Jeremy Bentham lorsque vous avez parlé de Foucault.
C'est une version, oui. En fait, c'est pas tout à fait la même, oui.
Et est-ce qu'on pourrait pas dire qu'aujourd'hui, en passant par 1984 d'Orwell et les activités de la NSA aux États-Unis, il y a une forme de pouvoir, de contrôle qui s'est éloignée des corps? Parce qu'au temps de Bentham, il y a un contact visuel entre celui qui exerce le contrôle et les prisonniers contrôlés. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre une mutation du pouvoir qui se dématérialise mais qui exerce quand même son pouvoir sur les corps à distance? Et secondairement, si vous avez le temps, est-ce que vous pouvez dire un petit peu plus de choses sur la corruption de la dénonciation du pouvoir que vous avez abordé plusieurs fois? Est-ce que vous pouvez ajouter quelques mots là-dessus? Merci.
Sur le premier, vous avez, encore une fois, ce n'est pas tout à fait ma spécialité, mais le cas extrême, je pense, qui a été analysé par un très intéressant livre, de, je crois qu'il s'appelle Chamaillou, sur le drone, serait l'exemple absolument tragique et pathétique d'une dissociation complète entre la surveillance, la capacité de tuer et la présence des corps. Encore beaucoup plus que dans une prison. C'est-à-dire le surveillant de prison est quand même encore, même dans le système panoptique, vous avez raison, proche, alors que l'opérateur de drone qui tue à des milliers de kilomètres est évidemment distant. Je pense que Foucault, Michel Foucault, dont on a parlé tout à l'heure, se serait emparé de cet exemple. D'ailleurs, Chamaillou, je crois que c'est Chamaillou, n'est-ce pas ? Le modèle drone, je crois.
La théorie du drone.
Utilise beaucoup, évidemment, ces notions de pouvoir à distance. La corruption, elle peut être partout, y compris dans la dénonciation. Je crois que c'est un point qu'on pourrait faire avec Luc. C'est-à-dire que le fait de dénoncer ne donne pas d'autorité, a priori, sinon cette balance que j'ai essayé de faire, et je crois que c'est un principe que va reprendre Nathalie, c'est-à-dire d'être entre, disons, avaler une couleur d'un côté et douter de quelque chose de l'autre, c'est assez curieux comme opération. Et ça, c'est vraiment l'opération qui a été montée autour du doute sur la Shoah. Les négationnistes, au sens propre du terme, ont construit toute une espèce de scène de doute minuscule sur un certain nombre d'opérations et d'avaler la possibilité même que l'ensemble de toutes les informations, de tous les historiens du monde et de tous les témoignages soient truqués. Donc on voit bien là qu'il y a une espèce on doute d'un côté d'un point et on absorbe. Il y a un extraordinaire exemple qui est ça, c'est de Milosevic se défendant au tribunal international. C'est une étude qui a été faite par Elisabeth Clavry et qui est tout à fait extraordinaire parce qu'il arrive à faire douter ses juges de petits détails, de choses absolument minuscules sur les images que les juges, ou plutôt le procureur lui apporte. Et il avale, il fait avaler à son des énormes, des espèces de mythologies gigantesques sur la Serbie et l'histoire du socialisme qui sont grosses comme des maisons. Donc cette répartition inégale des capacités de doute, ça c'est un phénomène de corruption extrêmement important. Mais encore une fois, comme Luc le montre dans son livre, il y a beaucoup de complots qui sont vrais. Nous avons connu, nous les gens à cheveux blancs, ici, la situation où il n'y a qu'une chaîne, donc on n'a pas besoin de la télécommande, mais on a connu aussi le moment où il n'y avait que les journaux, Le Monde, Le Figaro, etc., Libération, et là, chacun est entouré d'une vaste infosphère dans laquelle il faut essayer de se retrouver. Donc vous avez raison, la corruption, il y a une corruption de la critique, c'est ça qui est important, la critique n'est pas toujours positive, il y a une corruption de la critique. C'est pour ça qu'il faut se méfier du pouvoir, même du pouvoir de la critique.
Alors vous aurez compris qu'on est entre nous, okay, le forum c'est un grand collectif, y compris du côté de la tribune, de quand Bruno Latour dit Nathalie, c'est Nathalie Hennig, quand il dit Luc, c'est Luc Boltanski, vous aurez tous rectifié de vous-même et je préfère préciser.
C'est Jacques Prévert de Boulogne-Billancourt.
Merci.
Bonjour. Donc en fait, le thème de cette conférence, donc où est le pouvoir ? Et en fait, je voudrais vous poser une question. C'est aujourd'hui, en France, en Europe, aux États-Unis, on vit dans un monde où l'idéal est que le pouvoir est aux mains du peuple. Pour vous, est-ce vrai ? Et si c'était vrai ? Si le pouvoir était entre les mains du peuple en tant qu'ensemble, on ne risquerait pas d'avoir une dictature de la majorité sur la minorité ? Voilà.
Merci.
Je pensais que vous alliez finir en disant « Hugues ». Je crois que je vais dire que cette question n'est pas forcément... très bien formulé pour moi, en tout cas pour que je puisse y répondre, parce que je ne crois pas une seconde que la démocratie, c'est ça, le pouvoir exercé par le peuple. Il y a une masse de littérature sur cette question. De nouveau, parce que le pouvoir est trop diffus et trop latent, qu'on l'exerce mal, qu'il est facilement corrompu. Et donc, la seule chose que, pour répondre à votre question, c'est l'usage que j'ai fait de John Dewey, le grand philosophe américain des années 30, parce que la construction du problème public est un problème, justement. Le titre de son livre dit tout. Le public est un problème, y compris le problème que vous soulevez. C'est-à-dire, évidemment, il n'est pas question, sur les questions qui nous intéressent directement, dit Dewey, les questions sur lesquelles nous avons une marge de manœuvre, précisément sur lesquelles nous exerçons un pouvoir, nous savons comment nous débrouiller. Les questions qui nous lient dans ce qu'on appelle le pouvoir au sens de la sphère du pouvoir, la philosophie politique, c'est les questions sur lesquelles nous n'avons pas de visibilité. Donc la question, c'est pas est-ce qu'il faut donner le pouvoir à qui, au peuple, ou aux élites, ou aux experts, etc. C'est que, par définition, les conséquences inattendues de nos actions nous associent d'une façon nouvelle et pas prévue. Donc, il faut poser un peu la question autrement. Est-ce que nous avons besoin, pour résister à la corruption, d'une enquête continuelle sur les conséquences inattendues de nos actions? La réponse est oui. Est-ce que les spécialistes à qui nous donnons une partie de cette responsabilité, parce qu'on n'a pas le temps d'enquêter sur toutes ces affaires et qu'on appelle l'administration au sens large, peut-être facilement corrompu? La réponse est oui. Les politiques sont être extraordinairement facilement corrompus dès qu'ils imaginent, pas corrompus au sens d'être financés, par, encore que ça puisse arriver, mais corrompus tout simplement parce que les conséquences inattendues de nos actions, elles sont inattendues. Et donc, ils sont aveugles. La politique, ce sont des aveugles menant des aveugles. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est d'améliorer le système d'enquête, le système de la canne blanche, si vous voulez, de façon à ce que nous tâtonnions en commun assez rapidement sur les conséquences inattendues de nos actions. Et je crois que ce problème de démocratie a été parfaitement vu de façon intéressante par le grand philosophe américain des années 30, et aussi Walter Lippmann, qui est un autre grand ami de John Dewey, et un peu perdu par ce qu'ils appellent d'ailleurs la tradition continentale, et à laquelle vous faites allusion en disant le pouvoir au peuple. Ça, c'est une version rousseauiste, une espèce d'utopie dont se sont beaucoup moqués et Lippmann et Dewey, non pas parce qu'ils doutaient de la démocratie, mais parce qu'ils disaient, mais attendez, vous n'allez pas construire une situation où les gens savent quelles sont les conséquences inattendues de nos actions. Elles sont inattendues. Personne ne savait que nous allons finir par prendre la terre sur nos épaules. C'est une nouveauté. Et donc, est-ce qu'on a été rapide dans l'enquête? Non. Est-ce qu'on est rapide dans les solutions? Non. Est-ce qu'on tâtonne? Oui. C'est ça la démocratie. C'est pour ça que la démocratie a aussi énormément besoin de sciences sociales et de presse et d'art, qui sont trois livres d'ailleurs, et de Walter Lippmann et John Dewey, précisément pour cette raison. C'est une version pragmatiste au sens de la philosophie pragmatiste, qui est la grande tradition, malheureusement très ignorée en France.
Ici, une question suivante d'un élève du lycée Bellevue.
Bonjour, excusez-moi. Je voulais remettre en cause la notion de pouvoir. Ne peut-on pas dire que nous avons tous du pouvoir, dans le sens où tous, mais chaque être vivant, chaque particule finalement, nous partageons le même univers, le même air. Et donc, parler même de pouvoir, n'est-ce pas une absurdité? Donc finalement, la notion de pouvoir absolu serait inexistante, et tout ce dont on parle ici, ce serait juste relatif.
Ben, si on parle de pouvoir, c'est de la faute de Jean Birnbaum, c'est pas de ma faute. Hein. Moi, j'aurais pas choisi ça, j'aurais exactement comme vous, et c'est pour ça que j'utilise le terme puissance d'agir, essayer de comprendre comment ces puissances d'agir sont distribuées. Ceci dit, il y a un danger dans la façon dont vous formulez le contre-argument sur le pouvoir. Je pense qu'il faut se méfier de la notion de pouvoir, je l'ai dit plusieurs fois, donc vous avez raison. Mais il faut un peu faire attention au fait que nous sommes, quand vous dites nous sommes tous dans l'unis, le problème c'est que c'est tout à fait inexact quand on commence à se tourner vers les questions d'écologie. Les questions de nature nous divisent. Les questions de nature divisent en ce moment la Russie, l'Arabie Saoudite, l'Amérique, elles divisent l'Allemagne et la France sur la question du nucléaire, elles divisent, il n'y a rien de plus diviseur, comme on dit maintenant, je crois qu'on utilise beaucoup, comment est-ce qu'on dit, clivant. Une expression qui se répand. Bon, il n'y a rien de plus clivant que les questions de nature. Donc, derrière votre question, il y a cette belle idée, évidemment, qu'à partir du moment où on parle de choses naturelles, de la nature, on est dans le même bain. On est tous enfants de Gaïa ou de Biogé, comme le dit Serre. Mais en même temps, ce qu'il ne dit pas, et c'est un défaut de la position de Serre, y compris dans le contrat naturel, c'est que ça nous divise. Ça nous divise terriblement. Sur le nucléaire, je suppose qu'on est déjà divisé. Sur les OGM, nous serions divisés. Sur la question de l'eau aussi. Il n'y a pas de sujet d'écologie qui ne soit pas un sujet de dispute. Et c'est d'ailleurs le problème pour lequel l'écologie... Enfin, il ne faut peut-être pas faire de politique ici, je ne sais pas. Mais les partis écologiques ne sont jamais arrivés à faire quoi que ce soit de vraiment stable, parce qu'ils ont cru que du moment qu'on parlait de nature, on allait s'entendre. Donc c'est un peu le problème de votre question, c'est que non, nous sommes aussi bien divisés par les questions de nature que par les questions politiques, disons, plus classiques. Et donc, c'est pour ça que j'utilise positivement l'expression « repolitiser les questions de nature ». En ce sens, malgré ce que j'ai dit en commençant, je pense qu'il est utile de parler de pouvoir. Mais vous avez quand même raison sur le fait que ce n'est pas un concept qu'on peut garder très longtemps.
Merci beaucoup.
Mais je vous remercie quand même de votre question.
Merci beaucoup pour cette question et pour la réponse. Alors, on va prendre encore deux ou trois questions.
Et ensuite, devant, il faudra qu'on rende la... ici.
Oui. En tant qu'ancien paysan, actuellement retraité, et j'en viens au pouvoir, disons que le type d'agriculture que ces 30 dernières années nous avons réussi de façon minoritaire, encore très minoritaire, à impulser, agriculture durable, bio, etc. Nous avons effectivement dû combattre, nous battre, nous organiser collectivement, de façon très minoritaire, mais néanmoins, face justement au pouvoir des grandes organisations agricoles, des chambres d'agriculture, au pouvoir des firmes multinationales. Et au-delà, je poserai dans l'analyse plus générale la question comment réintroduire ou avons-nous perdu de vue la notion de classe sociale et est-ce que comment la faire rendre d'actualité pour l'analyse ?
Là, vous avez parfaitement raison. La question des inégalités, c'est la grande affaire de l'écologie, justement. Cette question qui avait été mise de côté, et malgré les travaux, l'exemple que vous citez des agriculteurs bio, on avait mis de côté cette question des inégalités et la question écologique. Le lien n'étant pas visible, tout le monde faisant la distinction entre économie et écologie, développement, et alors qu'évidemment, vous-même, monsieur, dans votre activité d'agriculteur bio, l'avez vécu différemment. Donc, il y a quelque chose qui est très intéressant dans l'exemple que vous donnez, que vous avez vécu directement, c'est qu'une partie du pouvoir qui était donnée à ce rouleau compresseur, c'était la notion de modernisation inéluctable. Et donc là, c'est pas pareil de lutter contre des lobbies comme Monsanto et de voir ajouter à ce lobby le caractère de la modernisation inéluctable. Et donc maintenant, ce qui est très passionnant, les questions agronomiques, je travaille un peu là-dessus, je travaille sur les zones critiques en ce moment, qui sont au fond de la pédologie ou la géologie, la géochimie, c'est qu'on a, on sait plus ce qu'on veut dire quand on dit d'agriculture moderne. Est-ce que c'est l'agriculture anciennement modernisée ou est-ce que c'est la nouvelle agriculture post-modernisée auquel vous avez, si j'ai bien compris, travaillé vous-même. Donc l'hypothèque, ça c'est une question intéressante pour les analyses en termes de pouvoir, c'est que rajouter à la question de la domination par Monsanto sur les agriculteurs et sur les OGM, la question de la modernisation, ou enlever la question de la modernisation, ça donne des marges de manœuvre. C'est pas pareil pour des agriculteurs bio d'avoir à se battre contre Monsanto, seul, enfin, ils se battent contre Monsanto, c'est une bataille politique absolument classique, et qui joue sur les brevets, sur toute une série, et se battent contre la modernisation inéluctable. La fatalité que ajoute la notion de modernisation. Ce qui se passe avec le nouveau régime climatique, et c'est ça tout l'intérêt de la mutation qu'on vit, c'est l'aspect positif d'une situation par ailleurs tragique, c'est que la notion de modernisation ne permet plus de faire taire les autres. Et on va le voir, je crois, dans la manifestation du 29 novembre. C'est-à-dire que les agriculteurs, qui sont une grosse partie de la manifestation, d'ailleurs, on ne va pas pouvoir les faire taire en leur disant « Oui, mais vous n'êtes pas moderne. » Parce que la modernisation, c'est la menace dans laquelle nous sommes, en quelque sorte. Donc il y a une espèce d'inversion, ce sont des choses que je travaille depuis 30 ans. Mais le mot de modernisation ne suffit plus à faire taire les opposants. Et ça, c'est un immense progrès.
Bienvenue, monsieur.
Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour monsieur Latour. Donc, la notion de confiance en rapport avec le pouvoir a été récurrente dans votre exposé. Donc, est-ce que vous considérez que la confiance comme une sorte de degré zéro de pouvoir? Et pour résister le pouvoir, comme la méfiance semble être inadéquate, ce soupçon qui dénonce uniquement semble éphémère et représente juste une foi négative. Est-ce qu'on peut proposer une sorte de pensée défiante qui aurait marqué une absence de foi, une place vide, une place ouverte pour la pensée? Merci.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Défiance, vous voulez dire? Oui, je vois, étymologiquement, là. Oui, c'est intéressant comme... disons, c'est un problème de... C'est un problème de dosage ou de calibrage, je ne sais pas comment dire. J'ai insisté dans mon exposé, effectivement, peut-être trop sur le fait qu'il fallait se méfier de la notion de pouvoir, mais la notion de soupçon et de dénonciation, parce que c'est un problème de calibrage. Il faut essayer... la confiance dans les institutions, qui est évidemment nécessaire pour retrouver un certain sentiment d'autorité, n'est pas naïve. Toute autorité peut être corrompue, y compris l'autorité des scientifiques, y compris des juristes, etc. C'est simplement qu'on applique à ces autorités-là le même degré de confiance-méfiance, si c'est ça que vous entendez par défiance, c'est très bien, qu'on attribue au maire du Mans. Enfin, c'est-à-dire, nos élus, ben on sait qu'on peut leur faire confiance, mais il faut faire attention. Pouvoir contre pouvoir. C'est la même chose. Et y compris, pour reprendre une question d'une des étudiants précédents, y compris pour le pouvoir de la critique. Donc, effectivement, défiance, ça dépend comment on entend le terme étymologiquement, mais je pense que c'est une bonne formule. C'est-à-dire, ne pas, ça revient un peu au principe que je disais tout à l'heure, ne pas avaler d'énormes couleuvres pour dénoncer des choses qui, par ailleurs, c'est le cas de la dispute sur le climat. Monsieur Allègre nous fait avaler d'énormes couleuvres sur le fait que tous ses collègues scientifiques sont corrompus, alors que lui-même ne l'est pas, mais entre, disons, l'ensemble de la communauté et l'institution scientifique, nous qui ne sommes pas scientifiques, c'est insensé, comme ça veut dire qu'on avale l'idée d'une corruption généralisée, tout ça pour douter d'un élément qui nous déplaît. Il faut simplement faire avec les experts comme on fait avec les politiques, c'est-à-dire on leur fait confiance et puis on fait attention. C'est une espèce de... Mais on peut se tromper, hein. Dans les deux cas, on peut se tromper. Trop de confiance ou trop de méfiance. La paranoïa et l'indifférence sont les deux mamelles. Non, ça ne va pas marcher. Les deux... Enfin, bref, je suis un peu fatigué, donc là, je ne finis pas ma phrase.
Dommage, ça aurait été pas mal.
Dernière question, donc.
Dernière question,
ouais. Et je rappellerai qu'ensuite, il y aura la proclamation, oui, du résultat du concours des lycéens.
Oui. Deux, trois autres petites choses, oui. Merci. Où êtes-vous?
Oui, bonjour. Voilà, on vit dans une société où on récompense l'action, le fait d'avoir un travail, etc. On a parlé beaucoup de pouvoir en termes de liberté d'agir. Et est-ce qu'il existe un pouvoir du non-agissement, enfin de la non-action?
Merci.
Il est immense, monsieur. L'inertie, la sainte paresse, l'indifférence. Regardez, alors là, c'est un massivement paresseux et inerte, c'est bien sur les questions climatiques. Nous entendons ces alarmes qui crient de partout des scientifiques et nous les regardons avec une indifférence, un stoïcisme, une paresse, un quiétisme admirable. Oui, oui, le pouvoir principal, bien sûr, c'est de ne rien faire. Il y a la version positive, n'est-ce pas, qui est l'éloge de la paresse, mais il y a la version... Non, nous sommes d'une paresse et d'une indifférence... et d'une inertie admirable.
Merci beaucoup. Alors, justement, comme on n'est pas tous si paresseux et si inertes, je voudrais vous donner deux, trois petites informations avant que vous quittiez la salle quand on aura remis le prix à notre lauréat ou lauréate. Je voudrais juste vous rappeler que nous avons les forums, je vous l'ai dit, ont une mémoire longue, ils s'inscrivent dans la durée. Depuis quelques années, chaque forum donne lieu à un volume d'actes qui paraît chez Gallimard dans la collection Folio, ce qui lui assure une belle diffusion. Je voulais juste vous rappeler que le forum sur la promesse, c'est-à-dire l'année dernière, celui de l'année dernière est paru là, et donc vous le retrouverez chez notre ami de Valérie de la librairie L'Herbe entre les Dalles, qui a un stand avec
que beaucoup de livres, ceux de nos intervenants en particulier, dans le hall de ce palais des congrès. Et donc, dès maintenant, je voudrais vous inviter nos camarades lycéens, en tout cas on va les inviter dans une seconde, je les invite à rester toutes et tous, je vous invite tous d'ailleurs à rester dans cette salle. On passe juste à la Daniel, merci d'être là, à la proclamation du nom de la lauréate ou du lauréat de notre fameux, il y a quatre lauréats et
je m'avais dit qu'il y en avait, voilà, alors merci aux lycées qui ont participé. Il y avait Jacques Prévert aussi qu'on a oublié dans la liste. Merci aux lycées qui ont participé. Il y a tout un règlement que vous connaissez. Le jury, pour terminer, avec 15 textes. 15 textes qui nous ont absolument enchantés. Vraiment, il y avait énormément qui étaient de qualité. Et bon, c'est la règle du jeu. On le fait. Mais les 15 finalistes seront tous invités à venir aller visiter, rendre visite au journal Le Monde. On va essayer de faire en sorte de trouver une date qui convienne, bien sûr à Jean, mais également pour les lycéens. Et on a dû dégager quelques-uns. Celle qui est arrivée en tête l'a été très nettement. Ça s'est dégagé naturellement. Et pour les autres, c'est une égalité. Il y a 3 autres textes, mais on n'a pas fait de différence. Je te laisse, Jean, lire le nom de lauréat.
Alors, on donne votre nom et puis on espère que vous allez venir nous rejoindre sur cette tribune. On vous appelle donc Charlotte Olivet, qui a travaillé sur les animaux. On l'applaudit. Eva Vigoureux. Juliette Grison.
Vous venez sur la tribune. Hein.
Et Camille Hiraud. Bah, venez si vous pouvez nous rejoindre. Merci beaucoup. Bruno Latour vous attend. Il va vous parler de votre puissance d'agir.
Ah bah venez, voilà, venez. Voilà,
merci. On vous applaudit. Merci beaucoup.
C'était le forum Le Monde Le Mans avec aujourd'hui Bruno Latour, sociologue et philosophe. Un débat animé par Jean Birnbaum. Prise de son Jean-Marie Porcher, réalisation François Connac.